par là et ensuite on va faire comme ça.
Donc, je reviens juste sur l'organisation de la Kayaka. Parce que oui, c'est ce débat a mené là-dessus. On ne peut pas l'éviter.
On pouvait.
Aujourd'hui, M. Ley termine son intervention en disant que le culte est représenté par le lieu du culte. Donc, c'est logique que la règle des mètres carrés soit appliquée pour définir les représentants. C'est normal, il n'y a pas une autre façon de définir l'indicateur.
Absolument.
Aujourd'hui, il n'est pas interdit en France de construire des mosquées. Il n'est pas interdit. Qu'est-ce qui empêche la Kayaka de s'organiser avec les réseaux qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, l'ancienneté qu'ils ont? Qu'est-ce qui les empêche de s'organiser pour accompagner les communautés africaines à avoir leur propre mosquée?
Merci.
Des mosquées qui sortiraient des caves et des foyers.
D'accord, merci. On va prendre des questions courtes pour avoir le temps
question.
De prendre. On va faire trois questions, puis ensuite on laissera répondre. Vous voulez toujours vous parler? Et ensuite, voilà, on va faire comme ça, Ousmane Timera, Frédéric Lallier, et ensuite devant. Allez-y. Et après, derrière. Je vous en prie.
Alors d'abord, merci de me donner la parole. Donc, c'est pas une question, c'est juste deux petites remarques que je voudrais recadrer, que j'ai entendues.
Vous pouvez vous représenter pour que tout le monde sache.
Je suis chef du pôle islam au bureau central des cultes, Frédéric Lallier. Ça fait 4-5 ans que j'y suis maintenant. Et j'ai été un petit peu la cheville ouvrière des assises territoriales de l'islam de France et des instances de dialogue. Et donc je peux témoigner de ce que ça représente. Donc c'est pour M. Abdelrahman Redouane que je voudrais juste remettre un petit peu les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que dans la période actuelle, il y ait une forme d'ingérence. Donc, ce qu'on peut considérer, c'est qu'il y a un État qui se soucie d'avoir un interlocuteur. Et dans ce cadre-là, il est tout à fait légitime parce que les religions en France ont un impact sur le social, sur l'ordre public, sur la situation, sur la cohésion nationale. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même face à un clivage qui est croissant entre une population musulmane et une population non musulmane. Vous le voyez au quotidien, vous le sentez, et donc il y a un enjeu de cohésion nationale. Donc que l'État puisse s'investir ou s'intéresser à la question est tout à fait légitime. Et il est là pour aider. Il faut cesser de voir l'État comme un acteur qui voudrait, sous un angle néocolonial, contrôler. Non, il est dans une logique de bienveillance pour essayer de faciliter l'émergence de solutions. Et les assises territoriales de l'islam de France étaient là pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant deux semaines, du 1er septembre au 15 septembre, les musulmans, les Français de confession musulmane ont été invités à réfléchir sur trois questions. Sur la question de la représentation, qui rejoint le débat que vous avez eu, sur la question de la formation des imams, qui est un enjeu majeur et que tout le monde reconnaît comme un enjeu majeur, et sur la question du financement. Est-ce qu'il est utile aujourd'hui pour les musulmans d'avoir un fonds de solidarité? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de collectif pour l'ensemble des musulmans pour réussir à aider aux salariés des imams, aider à la construction des lieux de culte, permettre aussi, pourquoi pas, sur l'enseignement, avoir quelque chose de plus homogène pour l'enseignement aux enfants. Enfin, on peut tout imaginer. Est-ce que, sur ces trois questions-là, l'État est hors de son rôle? Non. Il facilite l'émergence de solutions. Il met autour de la table un certain nombre d'acteurs pour réfléchir sur ces questions-là. Et à l'occasion du congrès des musulmans de France, dimanche, le ministre de l'Intérieur a donné les conclusions. Mais il ne les a pas imposées. Il a dit, voilà, sur la représentation, ce qui émerge à l'occasion de ces assises, c'était la création de conseils départementaux, une représentation au niveau du département. Parce que c'est là que ça se passe, parce que c'est concret. Et parce que les associations culturelles ont besoin de réfléchir ensemble pour dialoguer avec le préfet pour trouver des solutions aux enjeux du quotidien.
D'accord.
Donc ça, c'est mon premier point. Et le deuxième,
je suis
désolé,
oui.
Je me permets aussi, vis-à-vis de M. Passassi, de faire une simple remarque. Monsieur Passassi, dès lors que vous avez quelque chose à dire au ministre de l'Intérieur, vous êtes reçu. C'est peut-être pas au niveau du ministre de l'Intérieur, mais le BCC est là, le cabinet est là, et vous êtes entendu très régulièrement. Donc je ne trouve pas ça très très honnête de votre part de dire que vous n'êtes pas entendu ou que c'est abominable que l'islam subsaharien ne puisse pas être entendu au ministère de l'Intérieur. Voilà. Vous êtes écouté, vous êtes entendu.
Merci d'avoir fait le point sur du coup la position du ministère de l'Intérieur sur la question. Ousmane Timéra, puis ensuite on aura les réponses et puis une autre salve de questions avec les personnes.
Oui. D'être très rapide. La première de toutes, déjà je m'excuse auprès des membres de la PAYAKA. Il m'est arrivé lors d'un entretien que j'ai d'ailleurs eu avec Mohamed Timéra et Juliette d'avoir été très très dur avec vous. Maintenant, comprenant mieux la situation, je nuancerai tout en étant très dur quand même sur le point. Parce que qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Vous avez des beaux principes, c'est magnifique. Mais à côté aussi des beaux principes, il faut se donner les moyens, notamment les rapports de force, qui vous permettent d'avoir gain de cause auprès d'un homme politique tel que le ministère, parce qu'il ne voit que ceux qui pèsent. Et si vous n'avez que des beaux principes, et vu le rôle que vous avez joué, si le monde était juste, vous devriez effectivement avoir ce que on s'attend quand, dans un monde juste, c'est-à-dire que vous ayez la place que vous avez. Mais le monde n'est pas juste tel qu'il est. Donc qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous donner les moyens d'un rapport de force populaire en vous faisant mieux connaître par les gens du terrain? Je suis désolé, vous n'êtes pas connu et vous n'êtes pas reconnu. Et ça, il faut l'entendre. Si un homme qui est censé représenter entend de la part de ceux qu'il représente que tu ne nous représentes pas, il faut qu'ils se remettent en cause. Donc je ne suis pas d'accord avec la conclusion même de votre propos. Vous n'êtes pas représenté, faites un travail pour cela. Et je m'adresse aussi au pouvoir public. L'État, effectivement, essaie de jouer un rôle. Il peut être apprécié négativement ou positivement, mais il faut que l'État entende le fait que la majorité des musulmans, notamment jeunes, ne reconnaissent pas à l'État la légitimité d'intervenir dans ce domaine. Si l'État intervient pour garantir la sécurité, tout le monde le reconnaît cela. Et c'est tout à fait normal, puisque l'État est l'arbitre. Mais l'État ne fait pas que jouer le rôle d'arbitre. L'État intervient dans le choix des différents représentants. Les représentants, les différents représentants du CFCM ne sont pas reconnus par la base, ne sont pas reconnus par la population musulmane. Et si l'État veut effectivement que l'État de droit règne au nom de la devise, ben que l'État demande à ce qu'il y ait des élections représentatives, des représentants. Nicolas Sarkozy a bien dit, c'est en tout cas des éléments que nous avons trouvés dans différents articles, que l'islam de France n'avait pas besoin de démocratie. Ça a été dit, et nous le savons. Il y a des cooptations de la part d'un certain nombre de personnes que l'État impose dans les différents cercles de décision. De quel droit ? Pourquoi cela ne se fait pas pour les autres cultes et cela se fait pour le culte musulman? Donc c'est la continuité, malgré l'intérêt et la sincérité des hauts fonctionnaires, de certains politiques. J'ai travaillé avec eux, je suis chef de projet politique de la ville.
Mais il y a un... Vous pouvez rappeler qui vous êtes pour ceux qui ne savent pas, en l'occurrence.
Moi, je suis pour le fait tout simplement
Ousmane Timéra
et leur autonomie et qu'ils soient majeurs et qu'on leur laisse la possibilité de pouvoir choisir. Et si l'État intervient, qu'il intervienne pour faciliter ce genre d'élection et le choix. Sinon, qu'il arrête et qu'il nous laisse nous débrouiller. Mais il faut que l'État entende le fait que, malgré son intention, la population ne comprend pas cette intention. Il faut l'entendre. Et donc agir pour faire en sorte que la population comprenne les bonnes intentions de l'État. Et si l'État veut bien, qu'elle corrige sa politique pour se faire mieux entendre.
Alors, on va revenir sur les trois questions. Je vous promets, on va faire une autre salle. Mais juste avant que du coup notre invité quitte, est-ce que vous vouliez répondre ou pas aux interventions qui viennent d'être faites? Parce qu'elles étaient plutôt adressées à M. Fassassi et je pense aussi à ce côté-là de la table. Ou si vous avez un mot, je vous en prie.
Je ferai toutes deux réponses. La première, effectivement, c'est de reconnaître que la FAYAKA n'est pas suffisamment visible. Ça, c'est la vérité. En 2002, quand nous avons eu à créer la section PACA, c'est là que j'ai eu la connaissance, effectivement, de la FAYAKA. Il faut dire que je n'étais pas résident à Marseille depuis très longtemps. Donc ça peut s'expliquer.
D'accord.
Et que, effectivement, la FAYAKA, nous avons cette obligation morale, effectivement, de nous ouvrir davantage. Ce n'est pas un mea culpa, juste pour le plaisir de faire un mea culpa. c'est pour pouvoir offrir aussi mes services à mon aîné. Monsieur Fassassi, qui sait que je ne suis pas là, je vais repartir là tout de suite. Mm-hmm. Effectivement, pour qu'effectivement cette approche d'ouverture puisse se faire, pour qu'effectivement nous ayons de l'énergie nouvelle au sein de la FAIAK, une énergie qui puisse effectivement se battre pour que cette visibilité, cette représentativité de la communauté subsaharienne africaine, puisse cette visibilité soit assurée.
D'accord.
C'est la première réponse que je vais donner. La deuxième, je voulais saisir cette occasion pour rendre hommage à tous ceux qui ont eu à contribuer au niveau national, mais au niveau local, particulièrement à Marseille, à la mise en place de la FAIAK et à la représentativité effectivement de la communauté subsaharienne au sein de la... Je veux parler de là, mes amis sénégalais surtout, qui m'ont fait connaître la FAIAK. Il s'agirait là de Moussa Kouaté.
Merci, mais en fait, du coup, les noms, à ce moment-là, c'est pas, enfin, par rapport aux questions, c'est pas très pertinent.
Et surtout, je vais parler de deux femmes, puisqu'on est en train de dire que la FAIAK ne fait pas la place aux femmes. Il y a mon épouse qui est là, qui est vice-présidente de la FAIAK PACA, mais également une certaine Noria, qui est secrétaire... chargé effectivement des finances.
D'accord, ok. Merci, je vais revenir à M. Fassassi. Peut-être que vous vouliez répondre d'abord, et puis après on fera un autre tour, je vous en prie.
Mais vraiment avec plaisir. D'autant plus que c'est la remarque de M. Laillé permet vraiment de pouvoir revenir sur ce dont j'avais vraiment envie de parler dans le cadre de cette rencontre. Je vous remercie énormément. Et je suis complètement d'accord avec vous qu'effectivement l'État a. Comme mission principale de garantir la cohésion sociale. C'est la condition sine qua non pour un vivre ensemble. Je le partage à 1000%, 1 million de pourcents avec vous. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que moi, en tant que responsable, modestement au niveau de la ville de Bordeaux, d'une mosquée qui accueille quand même des milliers de personnes dans le cadre du culte qu'on organise là-bas, j'ai le sentiment qui est partagé par beaucoup de musulmans, hommes et femmes, que les tentatives de réforme de l'islam que l'État initie depuis toutes ces décennies contribuent à faire de l'islam, à présenter l'islam comme un problème pour la société. Et ça... quelles que soient les bonnes intentions, je suis d'accord avec Souman, quelles que soient les bonnes intentions de ce que nous observons, de ce que nous ressentons et de ce que nous retirons comme expérience vraiment du vécu, c'est que ça nous constitue comme un problème. Bien sûr, effectivement, il y a l'islamophobie qui est aussi entretenue et animée par des acteurs bien connus et qui rebondit avec le rôle des médias qui joue une espèce de caisse de résonance par rapport à ce sujet-là. Qui fait que, effectivement, aux yeux de nos concitoyens, notre religion et parfois nous-mêmes représentons littéralement une menace. Ce qui est pour nous une véritable insécurité. Ça nous insécurise complètement. Et surtout, quand on dit que dans les assises territoriales qui ont été proposées, le but est d'aider à trouver des interlocuteurs et d'aider à réformer, à mettre en place une réforme. Voilà, une solution, une réforme. En tout cas, le but, c'est d'arriver à quelque chose qui soit gérable. Mais, par exemple, au niveau de l'exemple de Bordeaux, les assises territoriales qui ont été organisées par la préfecture de Bordeaux, en Gironde, M. Laillé, les invitations ont été faites sur mesure. C'est-à-dire que, alors qu'il y a des associations à Bordeaux, on a plusieurs grandes mosquées, excusez-moi, on a plusieurs mosquées, voilà, on n'a même pas de grandes mosquées à Bordeaux, non pas qu'on le réclame, mais c'est juste pour que ceux qui ne connaissent pas le sachent. Il y a plusieurs mosquées à Bordeaux, la préfecture, puisque c'est elle qui a organisé ces assises territoriales, a choisi ses interlocuteurs. Une mosquée comme la nôtre, alors que moi, je suis sollicité par vos collaborateurs, en tout cas en Gironde, sur des questions de sécurité, sur des questions d'organisation de l'islam, notamment à l'occasion du Ramadan ou des fêtes de l'Aïd. J'ai des interlocuteurs au niveau de la préfecture. Mais à l'occasion, curieusement, des assises territoriales, au regard de mon positionnement qui est très clair, parce que ce que je pense, je le dis et je l'écris sur les réseaux sociaux notamment,
je suis devenu un peu l'infréquentable. Il n'y a pas que moi, mais moi je donne mon exemple pour vous parler de ce que je connais particulièrement. J'ai pas été, la mosquée de Pessac n'a pas été conviée à ses assises territoriales et nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs mosquées dans la région qui n'ont pas été sollicitées. La préfecture a tiré sur le volet les interlocuteurs qu'elle s'est choisis. Elle leur a donné la feuille de route parce que, M. Laye, trouvez-vous normal que ces thèmes-là que vous avez cités, qui sont très intéressants, la représentation, la formation des imams, le financement des mosquées, trouvez-vous que ce soit normal que ça à l'État de les réfléchir pour nous?
Ah, mais c'est pas l'État qui les a réfléchis.
L'État a donné la parole aux participants.
Non, je vous assure, M. Laye, je ne vais pas faire une polémique avec vous, je vous le dis franchement en toute décontraction, et je suis là vraiment pour échanger avec vous et avec tout le monde, vraiment dans un bon état d'esprit.
Faites votre élément de réponse, on va donner la parole à la salle.
Juste ça, je finis juste cette précision. Je vous assure que ces thèmes, ce sont des thèmes qui ont été proposés par la préfecture. Peut-être que Bordeaux est une exception.
Mais c'est des thèmes qui sont nationaux. C'est des thèmes qui ont été proposés à niveau national. Alors, juste. Alors, on va vous donner la parole. Alors, par contre, excusez-moi, ici, il y a une modératrice. Elle s'appelle Fatima Kemila. Elle va faire son travail de modération. Monsieur Lallier, si vous voulez bien, vous aurez aussi l'occasion de répondre. Mais avant ça, il y a l'épouse qui va devoir partir et qui voudrait faire une réflexion. Donc, on va l'écouter. Je vous en prie.
Les jeunes, etc. Et j'ai des enfants de son âge. Et j'ai moi-même participé, quand j'avais leur âge, à la création de la FAICA, APACA. Donc, c'est pour dire qu'il y a un moment, nous, on a forcé les choses. C'est pas la FAICA qui est venue vers nous. On est allé le chercher. Pourquoi on est allé le chercher? C'est parce qu'on s'est retrouvé à un moment donné dans, je l'avais dit tout à l'heure, les 30 personnes qui étaient choisies pour le projet de la grande mosquée de Marseille. Et quand je me suis trouvée là-dedans, on était peut-être 1, 2, 3, 4 Africains subsahariens.
Et combien de femmes?
Sur les 30.
4 femmes.
Non, ce n'est pas 4 femmes, c'est 4 Africains subsahariens.
2 femmes, 2
hommes. 2 femmes, 2 hommes, d'accord.
Voilà, on s'est retrouvés comme ça. Et c'est là où on s'était dit, mais ça veut dire quoi? Surtout, moi qui étais conviée, je me suis dit, non, à Marseille, on est la première communauté musulmane. Et on n'est que 2 personnes. C'est quoi cette histoire? Alors là,
Et qui vous avez invité, pardon?
Avec nos amis sénégalais, et qui nous ont dit, il existe une association qui s'appelle la FAICA, qui répond bien à la représentation. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis au travail, on a dit qu'il faut qu'on existe, qu'on soit présent. Et c'est ça que je demande aux jeunes aujourd'hui, c'est pas de créer une énième association, parce que c'est ça qui nous disperse. C'est comme ça qu'on se perd. D'ailleurs, on nous le reproche souvent. On dit, oh, vous avez tellement d'associations, on ne sait pas lequel choisir, on ne sait pas lequel, machin, etc. Donc, il faut renforcer ce qui existe. Et quitte à faire la révolution à l'intérieur. C'est vrai, on s'est fait vieux maintenant. On n'a plus la même préoccupation que la jeunesse aujourd'hui, peut-être, où on a un peu plus de distancification avec la réalité ou avec certaines choses. On le prend mieux, comme quand on dit bon, il faut être heureux d'être en France, parce que c'est vrai, c'est l'expérience qui nous a ramenés jusqu'à là. Mais vous, les jeunes, vous avez droit de vous battre et de crier et de scandaler aussi. La situation l'exige aussi. Et c'est ce qu'on a fait, nous, à notre époque, modérément, sans grand impact peut-être. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes plus nombreux, plus instruits que nous, vos parents. Donc,
il faut y aller.
Il faut y aller. Ne vous laissez surtout pas. Et puis, moi, je pense que la FAICA, autant que ça s'est créé, ils avaient vu juste qu'il fallait qu'on existe. Voilà. Alors, mais ils n'ont pas les moyens, comme ils l'ont dit.
Alors, on va vous faire un élément de réponse rapide puisque vous devez y aller et ensuite on reprend.
Là, on est sur les mêmes démarches que vous il y a 30 ans, sauf que ça produit les mêmes résultats, c'est ce qui est dommage. Je le disais tout à l'heure, on a essayé de rentrer par le biais du collectif des Mourides, vu qu'on vient du même pays, qu'il y a les mêmes, qu'on pourrait se comprendre et tout. Mais n'empêche, on a essayé de nous réduire. Et quand ça a fait bruit, qu'on a essayé d'entrer par les autorités religieuses Mourides et tout, ils nous ont dit qu'à ce rythme, qu'on ne serait pas mariable. nous on va aller là-bas, mais on est derrière. Donc du coup, il n'y a pas d'issue sur ce genre de discussion.
Merci beaucoup pour votre question. Je vais reprendre. Il y avait la question du monsieur là-bas et de Rania. Je vous en prie, bon train, merci beaucoup.
Merci de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie. Une, deux, trois.
S'il vous plaît, chaque tableau rond, on pose les questions. Le participant pose d'abord des questions et après la table ronde répond au fil.
Oui, je vous remercie pour le mansplaining et on n'a pas beaucoup de temps, alors je vous en prie, allez-y, enchaînez.
Deuxièmement, ma question est très simple et s'adresse à monsieur le professeur Passati. Bien, j'aimerais bien savoir où on en est avec les propositions chocs pour réformer l'islam de France qui a été posé à M. Macron par son proche, M. Hakim
El-Karaoui. D'accord, sur la réforme de El-Karaoui, ok.
Voilà, la réforme de El-Karaoui, le 6 juillet 2018. Où on en est?
Okay.
Donc, pour terminer, en 2016, au Bourget, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, David Aboubakar, a demandé d'acheter 200 églises qui sont vides actuellement. 200 églises pour faire des mosquées. Il avait dit au Bourget en 2016. Donc, où on en est avec ces deux propositions?
Ben, merci beaucoup pour la question. Monsieur Fassassi va vous répondre juste après, je vous en prie.
Oui, moi je m'interroge aussi sur, déjà au niveau de la
question,
c'est plutôt le choc générationnel, parce qu'on revient les jeunes et les anciens. Du coup, quels sont les relais chez les jeunes pour prendre justement l'idée de perspective et d'horizon de transformation? Parce que là, jusqu'à présent, on voit bien une organisation, mais une organisation telle qu'elle s'est installée dans le temps, selon un certain modèle, selon une certaine vision. Qu'est-ce qui change finalement maintenant, et en particulier sur les nouveaux relais actuels? Parce que moi, j'ai l'impression que qui va prendre la relais finalement?
D'accord. Merci beaucoup. Il y avait vous aussi, mais il y avait la dame juste avant. Madame?
Oui, excusez-moi, je ne suis pas sûre que je sois capable de poser ma question de manière intelligible, mais quand même j'entends un peu ce qui circule. Et je mets ensemble des constats là, que vous allez m'arrêter si ils ne sont pas vrais ou justes. Donc on a une sous-représentation et une mise en cause de l'islam subsaharien et des Comores dans à la fois la représentation et le système d'enseignement, on va dire, de culte. On a une surreprésentation parallèle ou consécutive de l'islam maghrébin, bon, dont on ne parle pas aujourd'hui hier parce que ce n'est pas le sujet. On a une recherche du pouvoir de limiter ou de faire émerger des instances qui seraient des interlocutrices, bon, comme dans toutes les crises, hein, enfin, je ne peux pas faire de raccourci, mais bon, à chaque fois on se dit, mais qui sont nos interlocuteurs, etc. Alors, bon, évidemment qu'il y a certainement des choses qui sont en difficulté, mais si on veut, moi la question que je me pose, c'est le ministère de l'Intérieur, il n'est pas tout seul, bon, en 2003, il y a eu la création de
du CFCM.
Ah bon, en 2007, on a eu le ministère de la... la nationale, enfin l'identité nationale et l'immigration. Bon, moi qui suis un petit peu plus du côté des politiques, peut-être que il faudrait mettre dans l'analyse des rapports historiques issus de la période coloniale, mais pas seulement avec les pays du Maghreb et notamment l'Algérie. Est-ce que ça rentre en ligne de compte ou pas?
D'accord, donc avoir une perspective historique en intégrant...
Alors, c'est encore plus compliqué que ça, si je peux... Parce que le fait que les chiffres, je les ai regardés, là, effectivement, de la consultation de M.
Marwan Mohamed, oui.
C'est 7% hein, des personnes consultées sur 27 000 ou 30 000 à peu près qui disent que les instances représentatives
les représentent.
Conviennent,
voilà,
et satisfont.
Ouais.
Vraiment, c'est une prise de confiance. Alors, ça, c'est ça.
Il va falloir faire court, voilà. Si vous voulez bien, pour que je puisse donner la parole.
Est-ce que le fait que, en France, l'islam est quand même surtout pratiqué par des personnes issues de l'immigration historique du Maghreb, je voudrais savoir s'il y a une réflexion à faire sur le fait que, au fond, ce pouvoir qui nous demande, enfin, les gouvernements successifs qui demandent à avoir des interlocuteurs, n'ont pas fléché un petit peu par avance et en lien avec les politiques diplomatiques et les relations internationales, des interlocuteurs privilégiés au niveau des États.
D'accord, je vous en prie.
Oui. Voilà, bon, en fait, moi je crois que c'est le moment pour Fayaka et pour tout le monde, parce qu'en fait, c'est le moment de décider si vous, le fait que le moment de l'élection dernière, sur 300 foyers, vous n'avez eu que 8 foyers qui vous ont suivi, ça veut dire qu'il y a une crise. Bon, on sait qu'il y a la crise partout, même au niveau de CFCM, partout, au niveau de la représentation. Mais est-ce que ici, Monsieur Hassani Fassassi peut s'engager maintenant de dire que oui, il y a une crise, et ça veut dire que convoquer tous les subsahariens, les musulmans subsahariens, parce qu'en fait dans les foyers quand même, et les foyers, il y a des mosquées, il y a des vieux qui sont là depuis le début de l'immigration, et le fait qu'ils ne sont pas avec vous, ça veut dire que ça ne va pas. Alors maintenant, pour organiser un colloque comme cela, et effacer le nom Fayaka. Si le nom Fayaka devait revenir, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce nom. Et ça veut dire que met tout à plat. Voilà, parce que en fait ici, si on veut en fait parler de la crise, il y en a partout. Maintenant, et je crois que c'est l'occasion, parce que c'est la première fois qu'on voit ce genre d'organisation. Parce que là maintenant, Fayaka devait même organiser ça avant ce moment, c'est le ministère de l'Intérieur même qui est l'initiateur en fait de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un problème. Alors du coup, moi, est-ce que vous êtes prêt de vous engager de quand même faire une réforme de fond? De fond, ça veut dire quoi? Peut-être même vous ne serez pas président, peut-être. Parce que ça sera une élection et libre et transparente. En fait, c'est pas parce que je suis en train de vous... Parce que ce que vous avez fait, c'est énorme. Ça veut dire que vous serez quand même récompensé à jamais. Ça veut dire que sans limite. Maintenant, il s'agit maintenant de réformer.
D'accord. La alors, question là, de la réforme de la Fayaka. Ok. Alors... Il y a les gilets jaunes dans la Fayaka aussi, apparemment. Petite question. Est-ce que vous vouliez répondre, monsieur Lallier, ou pas à l'échange de tout à l'heure, ou pas?
À moins qu'il y ait un point en particulier, mais voilà, on n'est pas d'accord sur le fond, sur le CFCM. Le CFCM aujourd'hui, quoi qu'il en soit, représente quasiment 1 000 000 de mosquées. Voilà. Il faut avoir ça en tête. Donc dire que le CFCM ne représente rien, c'est que si vous prenez l'ensemble des fédérations, elles représentent à peine 1 000 000 de mosquées. Sur les 500, ce n'est pas majoritaire, mais c'est quand même les principales fédérations que vous présentez.
D'accord, ok. Alors pour revenir.
Est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que vous pouvez proposer un meilleur système?
Alors, on va revenir sur les trois questions, si je devais les résumer. La première, c'est on en est où pour la réforme de l'islam de France, avec le rapport El Karoui. La deuxième question, c'était la question du relais chez les jeunes. Peut-être que du coup ici, est-ce qu'il y a des associations qui se constituent justement pour contester un petit peu ce qu'on a entendu, c'était quand même qu'il y a une critique du monopole de la représentation des musulmans africains par la Fayaka en disant finalement, vous représentez vous-même et vos intérêts. Du coup, se pose la question du coup de la sous-représentation aussi de l'islam africain dans l'ensemble plus global qu'est l'islam maghrébin. Alors, est-ce que vous voulez commencer sur la question de la réforme de El Karoui?
Premier point, s'il vous plaît. Premier point. Et je m'adresse
à ça. Effectivement, bien dit, c'est 2 minutes par réponse, s'il vous plaît.
Premier point. La Fayaka, avant tout, fonctionne de façon bâtine, interne. On ne veut pas de pouvoir. Il n'y a aucun intérêt. La représentativité que nous demandons, ce n'est pas comme pour les autres. Nous avons un chef spirituel qui, depuis 1962, ne fait que ça. Il sillonne, il envoie les gens à Mayotte, il reçoit les gens de Mayotte. C'est pour dire, partout où les gens noirs, entre guillemets, se présentent, je les reçois, on fait. Ce n'est pas pour avoir le pouvoir, ce n'est pas pour avoir la représentativité comme les autres l'ont. Nous, on se pose la question de représentativité pour décider de quelque chose qui va toucher nos enfants. Monsieur Lali, je réponds sur juste une intervention que vous avez faite. Alors, je disais tout à l'heure, je parlais de ministre. Honnêtement, Monsieur Lali et moi, et avec Lay, on se voit chaque fois quand on a besoin de lui, il vient nous voir. Il vient au siège de la FAYACA. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont moi je vous parle, c'est que depuis 3 ans, je vous mets en défi de me démentir, depuis 3 ans, quand le ministre demande à recevoir le bureau du CFCM, jamais il n'y a que 2 Algériens, 2 Marocains, 1 Turc. Est-ce qu'il y a eu une fois la FAYACA? Est-ce qu'il y a eu une fois l'île de la Réunion? C'est de ça qu'il s'agit, monsieur Lallier. C'est ça. Nous, vous nous recevez tout le temps, mais avec cette histoire de représentativité. Bon. Maintenant, le fond du débat.
Il vous reste vraiment 10 secondes. Hein.
Bon, le fond, c'est quelqu'un qui a posé la question du relais. Et l'hermétique de Mouride, on ne peut pas entrer dedans. La FAYACA, on ne peut pas entrer dedans. C'est archi faux. Moi, depuis 1999, sans exception, je travaille de ma poche. Jamais personne ne me paye depuis
1999. D'accord.
Au CFCM, il n'y a pas d'équivalent. Les autres, même s'ils prennent un thé, ils ont des notes, ils se font rembourser. D'accord. Nous, on fait de notre poche. Pour qui? Quand je me bats, vous dites, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir des mosquées? Ce n'est pas 8 foyers sur 300 qui nous ont suivis. C'est 8 foyers sur 300 que nos partenaires ont accepté. Comme ils ont accepté 0 Mayotte qu'on a présenté.
Pourquoi vous continuez dans ces cas-là?
Très bien.
À légitimer une telle instance dans laquelle...
Voilà. Attendez, vous avez posé la question. Vous avez posé la question.
Des vrais leaders. Un leader qui se fait autant insulter.
Écoutez bien.
Oui. Devrait quitter cette instance ou la réformer. Si vous restez, vous cautionnez.
Bon, écoutez, ce que vous venez de dire, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui a biaisé mon intervention, c'est que je me suis retrouvé comme j'étais il y a 30 ans, lorsque j'entends les gens, les jeunes, qui se plaignaient de ce qu'ils ont vécu. C'est pour vous dire, le rapport de force, on l'a enclenché. Ce que vous voulez dire, rapport de force. Pourquoi, si vous êtes aussi discriminés, si nous ne sommes pas discriminés, nous sommes lésés. Mais, les gens qui sont devant nous, nous ne les considérons pas comme des musulmans. Nous n'allons pas jeter le bébé, attendez s'il vous plaît, nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cheikh Moussa Touré, qui depuis 1962, nous nous battons pour l'islam. Mm-hmm. Eux, ils se battent pour le pouvoir.
Je vais devoir passer
ce n'est pas
à vos,
ça. Nous, on ne va pas. Mais le rapport de force dont vous parlez, on l'a enclenché avant-hier avec le ministre. On l'a enclenché. Ne vous inquiétez pas, ce que nous vous demandons maintenant. Et là, je reviens là à la question que
se passe. Non,
attendez.
D'accord.
On ne fait que ça.
Désolé,
on ne fait que ça. Égalité. Nous, on ne se tourne pas vers le ministère. On se tourne toujours vers la FAYACA, les jeunes que vous voyez, qu'on n'a pas contactés. Malheureusement, on ne peut pas
d'accord,
tout faire.
Okay.
Je vous
merci
ai
beaucoup,
dit,
on va passer à votre
on fait
collègue,
tout
si vous
ce qu'on
bien.
Peut.
Merci beaucoup.
C'est à vous de nous rejoindre.
Si vous voulez, merci. Si vous voudrez revenir sur la question que le spectateur a posée tout à l'heure, pourquoi nous construisons... non, pourquoi nous construisons pas assez de mosquées? Vous voyez, avoir l'intention et avoir de l'argent ne veut pas dire que avoir l'espace et l'autorisation de construction de mosquées. Croyez-moi, nous avons acquis 2 mosquées dans la région parisienne, l'un en 1996, l'autre en 2000, à Aulnay et à Tavarnier, avec nos propres fonds, qui ne viennent pas de l'étranger, ni d'une aide, ni d'une subvention.
Ce sont les fidèles qui l'ont financé, comme disait tout à l'heure notre frère nigérien.
D'accord.
Mais pour modifier, avoir la permission de modifier ces lieux de culte, pour pouvoir le rendre accessible et répondre aux normes d'accueil public, et avoir la possibilité d'organiser là-bas d'une façon normalisée, selon les normes de sécurité selon le plan d'occupation des lieux. Depuis dizaines d'années, nous courons derrière les maires qui refusent de nous donner cette autorisation.
D'accord.
La FAECA a acquis en 1993-1994 à Bobigny, dans le zone industrielle, un grand espace de plus de 1000 mètres, 2000 mètres même. Mais la maire a refusé catégoriquement que le lieu soit transformé en lieu de culte. L'exemple que je vais donner tout à l'heure dans le 18e est significatif. Donc, ne croyez pas que nous croisons le bras et nous faisons rien. Nous faisons tout ce qui est possible pour avoir des mosquées, non seulement dans la région parisienne, mais à travers toute la France métropolitaine, et même dans les Antilles.
Merci beaucoup.
Mais ce n'est pas du tout facile.
Votre réponse.
Et si vous me le permettez, je reviens sur la question que notre frère a posé tout à l'heure.
Si vous voulez bien, est-ce que vous pourriez revenir, si on a le temps, juste après, parce que j'aimerais quand même entendre un petit peu vos collègues. Alors, je vous en prie, comme dans l'ordre, si vous voulez.
Okay. Bon, c'est dommage, monsieur Laillé a été obligé de partir.
Oui, mais d'autres personnes lui transmettront le message.
Avec plaisir. Non, j'entends, il pose un constat objectif, c'est-à-dire qu'il fait l'état du lieu de la représentation telle qu'elle a été organisée jusqu'à présent et des acteurs qui sont en place. Est-ce que pour autant, on doit se contenter de ce résultat? Dans la mesure où on entend ce qu'on vient d'entendre et dans la mesure où on sait ce qu'on sait concernant les difficultés qu'on a effectivement depuis toutes ces années à mettre en place une vraie organisation légitime des musulmans de France, est-ce qu'il ne serait pas temps de se dire et si on changeait de modèle? Là, j'ai l'impression d'entendre la formule de Thatcher. Voilà, is not alternative. Là, ça me donne vraiment cette impression que c'est comme s'il n'y a pas une autre alternative que le CFCM ou un avatar tel qu'il est en train d'être préparé aujourd'hui dans les tuyaux de l'Institut Montaigne de Hakim El-Karaoui. Mais il faudrait quand même qu'on entende, si on veut véritablement nous considérer comme des citoyens à part entière, comme des citoyens légitimes de tous leurs droits, il faudrait quand même qu'on nous entende que nous avons la capacité, nous avons les moyens, nous avons les idées, nous avons les hommes et les femmes pour pouvoir nous organiser nous-mêmes comme les autres religions.
Mais justement, pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'ayez pas été invité par la préfecture et d'autres mosquées, en fait? Comment est-ce que vous pensez que l'État français choisit ses interlocuteurs?
Parce que ça fait partie d'une pratique, je dirais, presque ancestrale de la politique de notre pays, d'organiser la relation de l'État français avec le culte musulman. Je pense que vraiment, d'autres peut-être le diront mieux que moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je pense qu'il faut revenir à l'histoire de la relation de la France avec ses anciennes colonies ici de l'Afrique occidentale et du Maghreb, et comment ce système de gestion des communautés a été institué et comment elle se perpétue aujourd'hui.
Mais pourquoi les autres interlocuteurs et pas vous?
Enfin, je le dis pour juste rester à ma modeste place de responsable associatif. Je ne suis pas un historien, mais mon expérience sur ce sujet m'a instruit de la façon dont notre pays a géré sa relation.
Oui, avec la question coloniale. Mais est-ce que vous pensez que les autres ont un discours plus policier? C'est pour ça qu'ils sont invités? Ou comment vous pensez que le choix se fait?
Non, mais c'était en tout cas... Oui, ils ont un discours plus policé. Oui, ils vont dans le sens du projet de l'islam de France tel que l'État français le pense et tel que, ses hauts fonctionnaires et les personnalités qui ont été associées à son élaboration le pensent. Et donc, si je prends l'exemple de Bordeaux, à Bordeaux, nous avons un acteur principal qui monopolise la réflexion et l'organisation de l'islam de France, c'est Tariq Oubrou. Mm-hmm. Tariq Oubrou qui est aujourd'hui une référence au niveau de notre pays en tant tant qu'interlocuteur, en tant que voix des pouvoirs publics, au détriment des autres acteurs qui sont à Bordeaux. Cet homme a des qualités, a des compétences, c'est pas cela qu'on réunit, et encore moins s'attaquer à sa personne, mais il a une vision qui va dans le sens, qui va dans le sens de ce que l'État est en train d'envisager comme organisation. Et on peut citer encore d'autres exemples, je dirais, moins élogieux même que M. Oubrou. Quand vous pensez à la personnalité et au parcours de M. Chalgoumi, l'imam de Drancy, voilà quand même des exemples, et je peux en citer d'autres, hein. Voilà des exemples qui montrent très bien que l'État, quel qu'en soit ce qu'il dit, a une volonté de garder la main, de garder le contrôle de cette organisation au détriment des musulmans eux-mêmes. Et c'est ce que cette plateforme de la consultation des musulmans lancée par Marwan Mohamed et tous les hommes et les frères et les femmes qui sont autour de lui essaie de changer, de contourner, voilà, de permettre aux musulmans de se prendre en main eux-mêmes, de réfléchir un peu en tant que des sujets qui détiennent leur propre avenir, qui la construisent ensemble, et de ne pas être là comme des citoyens de seconde zone à qui on donne une feuille de route et à qui vous rendez compte on veut nous imposer le consistoire israélite, le modèle du consistoire israélite, alors que la loi 1905 existe et qu'elle fait interdiction à l'État de se mêler de l'organisation du culte.
D'accord. Okay. Hein? Merci beaucoup, je vais devoir vous attendre pour passer. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Je vous en prie.
Moi, j'attendais la réponse sur la question de la relève. Justement, on n'est pas contre une coopération intergénérationnelle, même si on trouve certaines pratiques caduques. Et on propose même la dissolution de ce mouvement ou de cette organisation qu'on trouve...
La Fayaka.
Ouais.
Donc justement. La dissolution de la Fayaka.
Oui, ouais, justement, pour que ça reprenne, même si ça a pris 30 ans. Mais pour partir sur de bonnes bases, notamment sur les idées de monsieur... Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut déjà dissoudre, enfin, à défaut d'appeler les jeunes et les femmes, d'échanger les personnes, justement, changer certains points qui sont là et qui sont figés. Et arrêter surtout de se focaliser sur les politiques publiques et parler à la communauté justement pour essayer d'avoir une sorte de fusion. Donc j'attends la question de la relève parce qu'elle est là et doit être traitée.
Merci beaucoup.
Je ne vais pas laisser parler
à votre collègue.
Pardon, Mohamed, c'est normal.
Vita, je vous en prie.
Oui, en fait, moi, ce que je peux ajouter à ce qui vient d'être dit, oui, aujourd'hui, au niveau de la représentativité de l'islam, je pense ce que monsieur Laï, avant de partir, c'est qu'il a dit qu'il y a quand même CFCM aujourd'hui est représenté par 1000 mosquées ou je ne sais pas 1000 combien mosquées. Dans ces mêmes mosquées qui sont représentées dans CFCM, si vous interrogez les fidèles de la mosquée, est-ce que le représentant de CFCM, il vous représente? Vous allez trouver plus de 80%. Non, moi, je ne me reconnais pas à travers ces personnes.
Regardez, c'est
donc,
ça que j'ai écrit.
Donc, je ne me reconnais pas à travers ces personnes. Donc, la meilleure façon, comme c'est vrai, l'État peut accompagner les musulmans pour avoir des interlocuteurs, pour avoir des représentants, mais il faut laisser aux musulmans de choisir qui les représente, qui peut parler à leur nom.
Merci beaucoup pour ce débat extrêmement intéressant. J'espère qu'on pourra continuer après, mais il y a la conclusion, il me semble, du colloque qui va se faire juste après. Merci.